Avant de laisser cette deuxième partie, le laboureur, j'aimerais vous réciter un petit poème d'Henri Rossier, pourtant médecin à Vevey. Alors, il avait bien observé la nature. Tu me disais, Frédéric, que tu n'étais pas un homme des champs, mais j'avais pas de soucis pour autant. Et tu vois, Henri Rossier, médecin, a écrit ce petit poème. Le laboureur, à mes fils. Par ses vents froids, son ciel de brume, octobre à peine inaugure les mois pluvieux ou glacés, que dès le petit jour, sans trêve dans la plaine, le laboureur s'acharne au sillon commencé. Courbé de ses deux mains, conduisant la charrue, il suit péniblement les grands bœufs accouplés. Et songe, devant lui s'étale fort et dru l'opulente moisson des seigles et des blés. Des champs au gai soleil s'élèvent dans l'azur. L'essieu des chars fléchit sous le fardeau des gerbes et les vastes greniers regorgent de fruits mûrs. 1906, bientôt 100 ans. Et ce poème me fait penser justement au puits de Sicard, où le Seigneur labourait péniblement. Et qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Levez vos yeux et voyez les campagnes, elles sont déjà blanches pour la moisson. La foi du laboureur. S'il n'a pas la foi, c'est pas la peine qu'il aille labourer. Donc nous passons à la dernière partie, la charrue. La charrue, je reviens un instant sans réouvrir la Bible à ce seul verset où dans notre, enfin en français en tout cas, il est fait mention de la charrue textuellement. La charrue, je crois que c'est le seul passage. En français, donc le Seigneur dit, celui qui a mis la main à la charrue ne doit pas regarder en arrière. Ce passage, bon, comme beaucoup d'autres, on peut en faire une application, plusieurs applications, mais j'en vois une, mettre la main à la charrue, regarder en arrière, c'est peut-être quelques-uns d'entre nous, on a commencé un petit service pour le Seigneur, puis dit, on dit, oh, c'est bien pénible ça. Je vais abandonner. Ah non. Non, non, on a mis la main à la charrue. Il ne faut pas regarder en arrière au temps où on ne l'avait pas mis la main à la charrue. Maintenant, on l'a mis. Et il ne faut pas 2 heures pour se juger. On peut se juger mentalement à l'entrée dans le local. Et même une fois assis. Il faut continuer. Peut-être même, il arrive, bon, tiens. J'ai l'habitude de prier au culte avec mes frères, mais aujourd'hui, je ne suis pas très bien disposé. Bon, je vais arrêter. Ah non, ce n'est pas la solution. Même à propos de la scène, je ne suis pas bien disposé aujourd'hui, tiens, je ne vais pas prendre la scène. Non. Non, non, j'ai mis la main à la charrue, je me suis engagé avec mes frères à me souvenir du Seigneur. Eh bien, bon, si je ne suis pas bien disposé, qu'ils se jugent et qu'ils prennent. Donc, ce passage peut avoir pas mal d'applications. Bon, maintenant, je voudrais, il me semble utile, avec ce troisième volet, la charrue, faire un tout petit historique de la charrue. Il se fait que un livre sur le sujet m'est tombé sous la main cet hiver. On me l'avait donné pour le relier, puis, opportunément, on peut dire que le Seigneur a peut-être bien dirigé les choses. Donc, j'ai eu quelques renseignements que je voudrais vous restituer. Quelques bribes, en somme. D'où vient la charrue dans l'histoire? Bon, d'ailleurs, quand il est dit Caïn labourait la terre, quelle charrue c'était? Et on a pensé que c'était simplement, bon, je vais vous en montrer, je ne vais pas dire que c'était ce que c'était la charrue de Caïn, mais bon, vous avez vu que l'arrière était en grande partie en bois, et c'était simplement un bois à l'équerre, j'ai pas eu beaucoup de mal pour trouver ça. Et avec ça, on peut gratter la terre. Un bois recourbé. Mais simplement, bon, je pense pas que le fer était inventé à l'origine au temps de Caïn. Enfin bon, n'épiloguons pas trop là-dessus, c'est pas très utile. Dans les textes antiques, pas au temps de Caïn, mais enfin après, on a appelé ça le bâton à fouir. Oui, entre guillemets, le bâton à fouir. Alors, on s'est aperçu que ce bâton à fouir. Fouir, c'est un terme qu'on n'emploie plus beaucoup, mais qui quand même se trouve dans l'évangile de Luc. L'homme qui avait bâti sa maison et il avait foui profondément. Bon. Donc, ça veut dire simplement creuser. Bâton à creuser. Alors, on s'est aperçu, au cours des années, au cours des siècles peut-être, que bon, le bâton s'usait, le bout s'usait, surtout dans les sols granitiques, sablonneux. Alors, on a mis un fer, on a attaché un fer au bout de ce bâton. Et finalement, ça a donné la naissance du soc. Et dans l'Ancien Testament, on va voir quelques passages où il est parlé du soc. Plus ou moins long, plus ou moins large, mais enfin, bon, on a attaché. Et puis, on s'est aperçu que ce soc, ça ne renversait pas beaucoup la terre. Et ça a rayé le sol, plutôt. Alors, on a pris une pelle. On a pris une pelle, on l'a attachée. Et dans les textes antiques, on voit l'expression « pelle à traîner ». Pelle à traîner. On l'a mis un petit peu en biais, cette pelle, et le versoir était inventé. Le versoir était inventé. La terre était renversée par cette pelle. Bon, donc la charrue, ça ne s'est pas fait en un jour. C'est un petit abrégé de l'historique de la charrue et jusqu'à la charrue de nos jours qui sont bien améliorées. Et vous avez des charrues à jusqu'à 15 socs. Mais c'est toujours la charrue. Et c'est tout à fait remarquable que le labourage, eh bien, on n'a pas trouvé mieux. Je sais bien que les initiés diront, certains font des semis sans labour. Oui, mais n'empêche qu'ils grattent le sol avec des chiselles en profondeur pour aérer, parce qu'il faut aérer. Parce qu'on s'est aperçu très tôt, justement, que si, et c'est facile de faire l'expérience, si vous semez des graines sur un terrain dur, eh bien, ça va faire une toute petite récolte très maigre. Et puis, à côté, ce qui est labouré, ça va faire une belle récolte. Parce que si c'est assez, eh bien, d'abord, les racines ne peuvent pas aller en profondeur. Et puis aussi, un peu plus élaboré, les bactéries aérobies ne peuvent pas se renouveler faute d'oxygène et aérer le sol. Et même les vers de terre, peut-être, c'est encore trop dur pour eux. Bon, donc le labourage est vraiment une opération très nécessaire. Alors, venons-en au soc. Ce soc, parce qu'il en est parlé plusieurs fois dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Le premier passage que je sélectionne, c'est dans 1 Samuel 13. Ce soc, oui, encore une petite pensée, ce soc qui féconde la terre, qui fertilise la terre, qui tranche la terre, il n'a pas manqué que les auteurs anciens et les poètes ont fait une similitude entre le soc et l'organe mâle qui féconde. Et ça, c'est très beau. Et soyons cette terre que le Seigneur veut féconder. Alors ce soc dont il est parlé en 1 Samuel 13, il est dit, verset 20, « Et tout Israël descendait vers les Philistins pour aiguiser chacun son soc, et sa houe, et sa hache, et sa faucille, lorsque le tranchant des faucilles et des houes et des tridents était émoussé, et pour redresser des aiguillons. Et il arriva que le jour du combat, il ne se trouva ni épée ni lance dans la main de tout le peuple qui était avec Saül et avec Jonathan, etc. » Donc, les Israélites s'étaient rendus dépendants des Philistins, maintenant la bande de Gaza, qui vient d'être évacuée, eh bien, pour forger leur soc, parce que justement, cette pointe, surtout dans le sable, elle s'arrondit et devient plus tranchante. Donc, il faut la forger. Et les Israélites n'avaient plus de forge et ils étaient dépendants des Philistins. Alors, quelle application, tout de suite, on peut en faire de ce passage? Il me semble qu'il y en a une, c'est que le chrétien, le croyant, il ne doit pas être trop dépendant des incroyants. Bon, c'est vrai qu'il faut cultiver des relations normales et sociales, même avec les incroyants qui nous entourent, les collègues de travail, tout ça. Oui, d'accord. Mais jusqu'à une certaine limite. Parce que si ils sont bien gentils comme ça, Mais si on introduit la pensée de Dieu, tout ça, et ça peut, les amitiés peuvent se tourner en inimitié. Parce que vous risquez de tomber aussi sur des gens qui ne veulent pas de Dieu. Et s'ils ne veulent pas de Dieu, ils ne veulent pas aussi de vous. Alors si après ils se retournent contre vous, ils deviennent en somme vos ennemis parce ils sont ennemis de Dieu, eh bien si vous êtes liés, si vous avez des contrats, si, eh bien après on se retrouve dans des situations périlleuses. Et même au niveau des entreprises, c'est arrivé. Être trop dépendant des incroyants, ça peut être risqué. Alors, maintenant, le deuxième passage, il faut que je l'introduise. Israël, de tout temps, a eu des ennemis. Et encore aujourd'hui, l'antisémitisme remonte. Pourquoi on a été contre les Juifs de tout temps? Parce que c'est le chapitre 12 de l'Apocalypse qui nous montre pourquoi les nations ont été toujours contre les Juifs. Parce que cette femme, elle a enfanté le fils mâle, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et Satan, le dragon, il est contre l'enfant mâle et veut le dévorer, mais il est aussi contre la femme et il persécute la femme. Image d'Israël. Pourquoi les nations ont toujours été contre Israël? Parce que Jésus-Christ est sorti de la nation juive. Et, d'autre part, parce que Israël a un avenir glorieux en rapport avec le Messie. Il ne faut pas nous faire d'illusions et chercher des causes secondes. Et ce n'est pas fini contre les Juifs, la guerre contre les Juifs. Et 6 millions de Juifs ont péri lors de la dernière guerre. Mais le peuple allemand, qui avait acclamé Hitler, a payé très cher, le double, 12 millions. On ne touche pas les Juifs impunément. Et le peuple juif reste le peuple de Dieu. Et un jour, ce peuple juif se défendra. Parce que Dieu prendra en main la cause d'Israël et armera Israël. Alors j'en viens à ce passage de Joël. Joël chapitre 3, verset 9. C'est Dieu qui parle. Proclamez ceci parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les hommes forts. Qu'ils approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos socs, forgez des épées. Et de vos serpes, des javelines. Que le faible dise, je suis fort. Accourez et venez, vous toutes les nations, de toutes parts, et rassemblez-vous. Là, l'Éternel fait descendre les hommes forts, que les nations se réveillent et montent à la vallée de Josaphat, car là, je m'assiérai pour juger toutes les nations de toutes parts. Et déjà, il avait été dit au début du chapitre 3, car voici, en ces jours-là, en ce temps-là, je rétablirai les captifs de Juda et de Jérusalem, et je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, et là, j'entrerai avec elle en jugement au sujet de mon peuple et de mon héritage, Israël, qu'ils ont dispersé parmi les nations, la diaspora, et elles ont partagé mon pays. Et ça, c'est un verset extrêmement précis et d'actualité. Parce que les Juifs, bon, se retirent de la bande de Gaza, mais ce verset, les nations, et toutes les nations du monde sont d'accord avec cette évacuation. Mais pas forcément Dieu. Que dit Dieu? Les nations, elles ont partagé mon pays. Parce qu'il y a une prophétie concernant Israël. Et cette prophétie, elle remonte à Genèse 12, quand Dieu a dit à Abraham, je te donnerai un pays et je te donnerai un héritier. Ça sert à rien d'avoir un héritier si on n'a pas de pays, et ça sert à rien d'avoir un pays si on n'a pas d'héritier. Mais Dieu a promis ces deux choses à Abraham et à ses descendants, un pays. Et Israël doit avoir le pays de la promesse. Mais les nations, elles ont partagé mon pays. Et Dieu sera contre les nations parce qu'elles ont partagé mon pays. C'est solennel. Mais des amis qui travaillent à Jérusalem en ce moment, ils ont nettement dit quand ils sont venus l'année dernière sur le plateau, ils nous ont dit, il n'y a pas de solution politique. Tant que les nations ne feront pas attention à ces prophéties, il n'y a pas de solution politique. Et les nations ne font pas attention aux prophéties. Elles ne le croient pas. Mais ce qui est écrit s'accomplira. Même si c'est temporaire qu'il laisse un bout de pays, Dieu s'occupera en son temps. Mais ce qui est solennel, c'est que Dieu sera contre ces nations qui ont partagé son pays. Et alors, là, on a cette parole remarquable en rapport avec notre sujet. Dieu dit, de vos socs, forgez des épées. C'est comme si on fondait cette charrue pour en faire 3 épées ou 4. C'est terrible. Mais Dieu l'a dit. Ça veut dire, bon, peut-être qu'en ce temps-là, en temps futur, ce n'est pas question d'épée ni de soc, mais ça veut dire quoi, ce verset? Ça veut dire que toutes les provisions, comment dire, tout l'investissement sera dans les machines de guerre. Peut-être que ce sera des mirages ou je ne sais quoi, mais tout le budget de la nation passera à l'armement. La traduction un peu moderne de ce passage. Ce sera un temps terrible. Et Dieu sera contre les nations et sera pour son peuple. Il y a ce beau verset, à la fin du verset 16 de ce chapitre, on a ces mots, l'Éternel sera un abri, l'abri de son peuple et le refuge des fils d'Israël. Et Dieu protégera Israël et sera contre les nations qui ont partagé son pays. C'est extrêmement solennel. Mais on dira, ah, cette guerre, ces cataclysmes, ces préparations de guerre, c'est terrible la guerre. L'autre jour, nous étions dans la campagne avec notre petit-fils, il y a 4 ans, et puis il y a un avion de chasse qui est passé assez bas, et il a eu peur, il s'est bouché les oreilles, et il m'a dit, Papilu, c'est pas la guerre. Non, je lui ai dit, non, c'est pas la guerre. Mais j'ai pensé au-dedans de moi, il se promène pas pour voir le paysage. C'est quand même un avion de guerre. Il servira un jour. C'est terrible. La préparation de guerre, l'arsenal de guerre qu'il y a sur le globe, c'est effrayant. Mais quand ça cessera? Et alors, on a parlé de Caïn, qui a tué son frère. C'est le premier acte de guerre, en somme. Avec quoi il a tué son frère, à votre avis? Avec quelle arme? Moi, je crois qu'il a ramassé une pierre tranchante. Peut-être avec un pieu, je ne sais pas. Et je ne veux pas faire l'historique des machines de guerre, parce que ça serait trop triste. Mais c'est terrible. Le progrès, si on peut appeler ça, dans les machines de guerre. Pendant la dernière guerre, Hitler avait fait sur ce qu'on a appelé le mur de l'Atlantique. Et il y avait des bases de sous-marins à Bordeaux et à Brest. Et à Bordeaux, je l'ai très nettement vu, l'entrée de l'arsenal. Et puis, sur cette entrée, il y a une couche de béton de 3 ou 4 mètres. Les Américains n'ont pas pu percer cette couche de 3 ou 4 mètres de béton pour anéantir l'arsenal de sous-marins qui était au-dessus. Maintenant, les Américains ont des armes qui traversent 7 mètres de béton et 30 mètres sous terre. Et le Sénat américain, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, voudrait employer des mini-bombes atomiques, des mini-bombes atomiques pour faire encore plus de mal. C'est terrible, terrifiant. Où ça va s'arrêter? Dans le temps du livre de Michée. Michée 4, verset 3. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Dieu jugera au milieu de beaucoup de peuples, et il prononcera le droit à de fortes nations jusqu'au loin, et de leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des serpes. Une nation ne s'élèvera pas contre une autre nation et on n'apprendra plus la guerre. Et ils s'assieront chacun sous sa vigne et sous son figuier et il n'y aura personne qui les effraie car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Alors on a ce verset bien connu qui est redit que Ésaïe avait dit, mais Ésaïe est contemporain de Michée je crois, « De leurs épées, ils forgeront des socs. » Oh, quel beau tableau, de leurs épées. Alors, vous voyez, on prend des épées, on prend une dizaine d'épées, on les fond toutes pour en faire un soc. Mais c'est merveilleux. Alors, c'est le symbolisme qu'on a vu tout à l'heure, l'épée tue, et le soc féconde. C'est beau, hein? Et aujourd'hui, les épées tuent. Et pendant le millénium dont il est parlé là, tout le monde sera sous sa vigne et sous son figuier. Le Seigneur règnera sur la terre, parmi son peuple Israël, avec l'Église, avec les nations aussi qui se seront soumises à lui. Et le soc fertilisera encore la terre dans le millénium. On n'apprendra plus la guerre. Ces instruments qui sont terrifiants ne seront plus là. Il n'y aura que le soc. Alors Dieu dit, anéantissez tous les instruments de guerre et faites-en des socs. Peut-être que ça pourrait avoir une application plus limitée. Tout ce qui peut être les uns contre les autres, il faut fondre tout ça pour en faire quelque chose qui fertilise. Quel merveilleux temps. On s'arrête sur cette note du millénium où on fondra toutes les épées, tous les instruments de guerre, tout ce qui aura tué pour en faire des socs qui fertilisent. On n'aurait jamais pensé à la richesse du sujet, et on l'a fait qu'effleurer, et il faudra que continuer, chacun pour soi, à le méditer, mais on peut remercier le Seigneur pour la richesse de sa parole et de ses images.